venez d'entendre Lazarus de David Bowie sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous voilà déjà arrivés à la dernière partie de Déclic et nous allons maintenant nous pencher sur le projet de Charles Hayat qui s'intitule Sense, ou Sens en fait.
Sens, c'est bon.
Qu'importe ce que le futur nous réserve, le futur choisit
Déclic.
Charlotte, vous avez, à l'opposé en fait de Raphaël Beaugrand, décidé de développer une œuvre de fiction en images de synthèse, qui est donc l'adaptation d'une bande dessinée. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu l'univers de la BD, la genèse du projet, et surtout qu'est-ce qui t'a donné envie, pardon, j'alterne le tutoiement et le vouvoiement, qu'est-ce qui t'a donné envie de développer ce projet en réalité virtuelle?
La BD, qui est une sorte de roman graphique sans écriture, tout en bichromie, est de Marc-Antoine Mathieu, donc, qui est un auteur qui a écrit de nombreux ouvrages, toujours très conceptuels, avec...
Effectivement, vraiment... je suis en train de le feuilleter en même temps que tu en parles et c'est très conceptuel.
Une histoire de flèche, on va dire.
Voilà, une histoire de flèche. Donc c'est des grandes pages avec un homme qui se balade dans des décors assez abstraits où il y a des flèches qui suit sans... Voilà.
Il aime bien du coup interroger toujours l'en dehors de la case et dans cette BD, Sens. C'est un homme qui est dans une sorte de désert, de limbe un peu. Il est seul et il... Il visite ce lieu, il avance comme ça, jusqu'où, on ne sait pas, à nous de le suivre. Et donc, il le propose sous ses... Marc-Antoine Mathieu l'explique sous ces mots-là. C'est le voyage initiatique d'un homme. Que cherche-t-il? Où va-t-il? Ce marcheur anonyme erre dans un univers épuré, traversé par l'esprit du labyrinthe. Temps, espace, hasard, au fil de ce récit quasi méditatif, se dessine pas à pas une forme contemporaine.
D'accord.
Donc moi j'ai un ami qui m'a mis la BD entre les mains, Pierre-Emmanuel Dallier, le fameux, et je me suis dit, ça fera une bonne adaptation en réalité virtuelle, parce que il y a ce côté jeu d'échelle en fait, où on se trouve au pied d'immenses monuments en forme de flèches.
Pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir, il y a parfois des planches où on voit une toute petite flèche et puis à la page d'après, on s'aperçoit c'est la même flèche mais à une dimension énorme qui devient une porte dans laquelle le personnage rentre, etc., etc.
Voilà, donc il y a beaucoup de mise en abîme, il y a beaucoup de jeux sur le noir et blanc, sur la perception, sur les formes, les lignes de fuite. Et la réalité virtuelle, c'est un peu aussi défricher des nouveaux univers et se plonger vraiment... Au sein même de ceci, et du coup cette BD nous plaisait bien, donc on a monté une équipe autour de ce projet avec Armand Lemarchand qui est développeur et game designer, Simon Albou, Antoine Monange, Nicolas Gagnon, et parallèlement à ça on a cherché un producteur. J'avais déjà travaillé avec Marie Blondiot sur un haïku interactif FI, avec Arte en coproduction. Le projet lui a plu. De fil en aiguille, ça a plu aussi à Arte, qui aujourd'hui coproduit du coup la production de cette application 360 de réalité virtuelle. Et nous voilà partis pour quelques mois d'écriture, de production. Là, on vient de finir une démo et on va sortir le site pour présenter le projet là dans la semaine, donc sur arte.tv/sens. Et on espère le sortir pour le printemps.
Alors on va écouter tout de suite un extrait musical pour donner un peu une idée de l'ambiance sonore.
Ouais.
Mais on va pas pour autant...
Une ambiance musicale de Frank Weber, qui est notre sound designer adoré.
Donc une ambiance plutôt abstraite.
Ouais, voilà. Dans tous les projets de réalité virtuelle, le son a vraiment une place prépondérante parce que c'est lui qui va spatialiser un peu et qui va jouer de ce côté, jouer du hors-champ en fait. La VR, c'est même si on peut tout voir, on a quand même à chaque fois de notre vue nos 160 degrés en face de nous. Mmh. Et qu'est-ce qui nous guide notre œil, qu'est-ce qui nous fait nous retourner et qu'est-ce qui va jouer du corps dans cet espace? Donc avec la notion notamment de proprioception, c'est cette sensation, ce genre de sixième sens qui nous fait réfléchir à notre corps, notre position, notre mouvement, sans avoir à le visualiser. Et de ce fait-là, le son guide vraiment le regard, le pivot de la tête et nous fait avancer dans une narration. dans un cheminement perpétuel.
Et donc du coup, tu disais qu'il y avait un game designer qui travaillait sur le projet. Ça veut dire qu'il y a une logique de jeu en fait dans l'exploration de cet univers.
C'est ça. Donc il y a des, on est dans un univers de réalité virtuelle, donc sans manette. Donc on a aucun bouton pour nous aider. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on est entre du jeu vidéo, entre de l'exploration, et ça va être à la vue, sur les endroits auxquels on va focuser, donc arrêter notre œil, qui va déclencher des actions et créer de la vie autour de nous, ou des déclencheurs pour avancer dans cette direction.
Donc l'interaction, elle vient quand on fixe quelque chose dans cet univers-là.
C'est ça.
D'accord.
Ouais.
Quand on gaze.
Oui, Christine Simon.
Oui, ce que je trouvais intéressant, c'est de faire appel au son sur un projet qui, a priori, est plutôt extrêmement visuel, et de se dire que le son avait sa part de... jouer là-dedans de manière beaucoup plus importante que ce qu'on voit d'habitude. Ouais.
Il remplit vraiment l'espace, parce que là, ce qui est difficile justement dans un univers où on attend de l'interaction, c'est remplir ces zones de vide, parce que là, on parle quand même de perdition, d'errance, mais comment on apporte la surprise, l'émerveillement, l'abandon de soi, le questionnement, ce genre de choses. Donc ça peut être par l'image, mais aussi bien sûr par le son qui remplit, soit par du bruitage un peu classique, mais abstrait, parce que là, l'univers le souhaite, mais aussi par des nappes sonores qui vont apporter une petite couche un peu comme ça de poésie, ou renforcer le côté méditatif aussi.
Est-ce que vous utilisez ce fameux dispositif sonore binaural ?
Alors...
Parce que pour les auditeurs, c'est un dispositif dont on parle pas mal dernièrement, qui permet de spatialiser avec beaucoup de précision les sons, et donc vraiment avoir l'impression, quand on a un son dans son casque, que le son vient de juste derrière nous, ou de 90 degrés à gauche, ou ce genre
de
choses.
C'est ça, c'est la rapidité du son à nous parvenir, et qui n'est pas la même selon les oreilles, en fonction de notre boîte crânienne, qui ralentit plus ou moins l'arrivée des sons d'un côté du dispositif. De ce fait-là, dans le jeu, alors il y a des sons spatialisés et il y a des enregistrements qui sont en binaural, donc pas tous, parce qu'on ne peut pas rendre le binaural génératif. Parce que si on a un élément qui arrive à notre gauche,
d'accord,
et que pendant qu'il arrive à notre gauche, on se déplace ou on pivote sur soi-même, c'est des technologies qui arrivent, qui se perfectionnent de plus en plus. Mais nous, on va en jouer de certains enregistrements, mais ce n'est pas totalement binaural toute l'expérience.
D'accord. Combien de temps dure l'expérience, et est-ce que vous avez fait des tests sur les durées optimales d'expérience en réalité virtuelle ? Je ne sais pas si c'est vraiment une expression qui a du sens, mais...
Là, on part sur une trentaine de minutes ou un peu plus, chapitrées, pour justement que les personnes qui se plongeraient dans l'expérience aient des petites coupures, puissent se demander « ouais, je continue » ou « j'y reviens plus tard ». On a fait tester à plusieurs personnes, on a été invité à l'IDFA, qui est un festival de documentaires, mais aussi il y a une partie Doc Lab qui est toutes ces expériences interactives, un peu nouveaux médias, nouvelles écritures. Du coup, on a fait pas mal de bêta-tests. Les gens vont souvent au bout, sans sourciller. Il y a peut-être une personne sur 10 qui va s'arrêter ou se trouver un peu mal à l'aise ou pas d'intérêt forcément. Mais sinon, tous les gens se plongent facilement pour 10-15 minutes. Et en fait, plus notre cerveau, plus on est habitué à ce genre d'expérience, plus on peut prolonger. Il y a certaines personnes, les deux premières minutes, ils sont un peu difficiles. Les premières fois, ce que je disais, on peut suer, on peut se sentir pas bien, on a l'oreille interne qui perd un peu ses repères. Donc,
première expérience un peu difficile apparemment, mais après on s'y fait quoi.
Après on mute et tout va bien.
D'accord. C'est ça, ouais.
Et du coup, donc une expérience comment est-ce qu'on va pouvoir la découvrir, cette expérience ? Parce que tout le monde n'aura pas de casque Oculus Rift dans les prochaines semaines, ni même dans les prochains mois. Donc ce sera comme pour Raphaël, des expériences à découvrir sur ordinateur avec sa souris ?
Il y a une partie qui sera sur ordinateur, comme c'est un projet coproduit par Arte. Donc il y a une volonté de donner accès au projet entièrement dans toute sa gratuité. Et il y aura une partie payante sur donc Oculus Rift et sur les Samsung Gear, qui disposent de leur propre store.
D'accord, donc les deux les marques de casques en réalité virtuelle font leur propre plateforme pour distribuer leur contenu.
Tout à fait.
Sur le modèle
en plus de la troisième
Store,
qui est l'Apple Store.
Okay. Et combien ça vaut alors une expérience en réalité virtuelle pour le projet Sense par exemple ?
Aujourd'hui, les prix des jeux vidéo qui sortent d'une trentaine de minutes, c'est environ entre 5 et 10 dollars.
D'accord.
Donc nous, on se situera à peu près dans ces eaux-là.
Ok, très bien. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler de réalité virtuelle et de le faire découvrir aux auditeurs de Radio Campus Paris.
Merci à vous.
Merci à vous.
Donc vous pourrez retrouver tous les liens mentionnés pendant l'émission sur la page Facebook de Déclic ou sur notre compte Twitter @DéclicLeMag. Le podcast sera disponible sur le site de RadioCampusParis.org dès cette semaine. Donc merci encore à Charles Ayat et Raphaël Brogrand d'avoir accepté notre invitation. Merci à Oriane Hurard et Christine Simone d'être venues cette semaine. Merci à Marine de Saint-Seine et Rémi Reboulet de ne pas être venus, mais merci à eux d'exister, d'avoir été dans les autres émissions. Aujourd'hui à la réalisation, nous avions la ténébreuse et brillante à la fois Tiffany Battistel, et nous retrouverons le dimanche 14 février pour le 5e numéro de Déclic. En attendant, passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.